Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bonsoir à tous. C'était l'une des grandes promesses du candidat Macron, offrir un renouvellement de la classe politique en investissant des candidats n'ayant jamais foulé le palais Bourbon. Le pari est aujourd'hui réussi. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur 308 députés élus, seuls 27 sont sortants. 279 n'ont jamais exercé de mandat politique. Une petite révolution qui pose plusieurs questions. Celle de l'attitude de ces parlementaires. Seront-ils les députés godillots que leurs adversaires politiques ont décrit pendant la campagne? Parleront-ils d'une seule et même voix? Réponse dans quelques mois, une fois les débats parlementaires lancés. Une autre question se pose avec l'entrée à l'Assemblée de novices en politique, dont certains ont fait d'ailleurs aujourd'hui leur premier pas à l'Assemblée, celle de leur capacité à exercer un mandat. Plusieurs vidéos ont fait le buzz ces dernières semaines. On y voit des candidats de la majorité présidentielle balbutier, hésiter pour ne pas dire s'embourber lors d'interviews télévisées. Alors peut-on être un bon député sans avoir jamais fait de politique? C'est notre débat de ce soir. Bienvenue.
RFI.
Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir en studio deux invités. Anne-Marie Le Pourriette, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeure de droit constitutionnel et de droit des libertés fondamentales à la faculté de droit et de sciences politiques à l'université de Rennes. Vous êtes aussi la vice-présidente de l'Association française de droit constitutionnel. En face de vous, Pierre Alarinfort, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes tout nouveau député La République En Marche, élu hier dans la 10e circonscription de l'Essonne avec 53,42% des voix, si c'est effectivement le bon chiffre officiel.
Bien
vous
ça,
me confirmez, c'est ça.
Oui.
Alors, Pierre Alarinfort, vous avez 34 ans, vous avez fondé un cabinet d'innovation managériale, vous incarnez un petit peu cette génération Macron, vous êtes beaucoup investi dans le milieu associatif et vous dirigez, alors ça peut paraître anecdotique, mais ça donne une forme une idée de votre parcours, la Ligue Taekwondo de l'Essonne, et vous n'avez jamais eu le moindre mandat politique. Alors, est-ce que vous redoutez la rentrée parlementaire qui va se passer mardi prochain à 15h avec l'élection notamment du président de l'Assemblée nationale? Comment vous voyez les choses?
On a envie de se mettre au travail, hein, donc on a hâte d'y être. Mais il n'y a pas d'appréhension particulière sur ce sujet, sachant qu'on a conscience de la responsabilité qui nous incombe sur ce mandat. Et l'envie est de travailler immédiatement pour pouvoir réussir ce quinquennat.
Alors j'imagine que vous savez sans doute que c'est un métier, alors on va y revenir, hein, qui est quand même technique, qui nécessite d'avoir peut-être certaines compétences, en tout cas en matière de droit parlementaire. Est-ce que ça, c'est des choses que vous avez déjà potassées? Est-ce que ça vous semble important? Est-ce que vous savez que vous allez être formé?
Non, on va être formé. C'est vrai que la partie technique est très importante. L'idéal, c'est de très bien s'entourer. Emmanuel Macron, le président de la République, nous l'a toujours dit et nous l'a fortement conseillé depuis le départ, hein, depuis la campagne présidentielle, c'est de savoir s'entourer de personnes encore meilleures que nous, justement pour relever tous les défis possibles. Après, il y a la partie technique et il y a une autre partie qui est très humaine, qui est l'expérience de vie et qui demande d'être au contact du terrain. Et c'est vrai que là, ma partie et mon expérience associative jouent beaucoup sur ce sujet.
Vous vous dites que c'est ça qui peut faire de vous un bon député?
Ça peut faire de moi un bon député, parce que ce qu'on a appris aussi pendant la campagne et la demande des habitants, au moins de la 10e circonscription, c'est d'avoir une présence en permanence sur le terrain, d'être très à l'écoute et très proche des habitants. C'est ce qu'ils demandent. Donc nous, on va forcément répondre à cette demande en s'entourant techniquement, car il y a une partie forcément du rôle du législateur, hein, qui va demander à avoir cette compétence technique, et on sera formé dans la durée, dès ce week-end d'ailleurs, en s'entourant des meilleurs.
Anne-Marie Le Pourriette, votre regard un petit peu de spécialiste du coup sur ces nouveaux entrants à l'Assemblée nationale, est-ce que vous êtes inquiète, comme ce qu'on peut entendre depuis quelques jours dans les médias de la part des adversaires politiques, hein, soyons objectifs, ou est-ce qu'au contraire vous regardez ça un petit peu avec intérêt en vous disant finalement ces novices au Parlement, ça peut être intéressant?
C'est neutre à mon avis, si vous voulez, c'est pas très important. À vrai dire, je ne crois pas.
Tout dépend de savoir. C'est dommage de nous dire ça en début d'émission.
La question est de savoir quelle est la qualité des personnes en question. Quand vous dites sans avoir jamais fait de la politique, qu'est-ce que ça veut dire faire de la politique? Ça recouvre une foultitude de choses. Faire de la politique, ça peut vouloir dire avoir déjà exercé un mandat. Et un mandat national, c'est pas un mandat local, c'est pas du tout la même chose. Attention à ce que vous êtes en train de dire. Le rôle d'un député, c'est pas de s'occuper de sa circonscription. Un député représente la nation française tout entière, il intervient dans l'intérêt national, c'est tout sauf faire du clientélisme local. Et donc déjà, il y a beaucoup de députés, c'est d'ailleurs le mal. le mal français et le mal de nos institutions, c'est le fait que justement...
Donc c'est peut-être pas le défaut d'un novice.
On pourrait se poser la question de savoir au nom de quoi, pourquoi d'ailleurs dans les frais de mandat des députés, il y a toujours une permanence locale. Est-ce que c'est vraiment indispensable pour quelqu'un qui représente la nation française tout entière? Son métier, c'est de faire la loi et de contrôler le gouvernement. C'est pas d'aller voir si Madame Michu est contente de ceci ou de cela et aller résoudre ses petits problèmes. Mais le problème, c'est qu'on fait ça parce qu'on veut être réélu et qu'on veut soigner sa clientèle locale. Et ce problème-là, on ne le fera jamais disparaître. Bon. Et vous voyez bien que les nouveaux, d'ailleurs, entrants, commencent tous par dire, c'est ce qu'a dit d'ailleurs, elle a été battue, je crois, la Torreira, qui est venue
oui,
sur
face
le
à Gilbert
le plateau
Langard,
ce
oui.
jour. Elle a présenté sa fonction comme étant un mandat local. Elle a confondu le rôle de député et le rôle d'élu local, qui est pas la même chose. Élu local, c'est du management. C'est aujourd'hui surtout, c'est vraiment de la
Mais
gestion.
Mais alors, est-ce que député, c'est un député, métier, enfin un mandat plutôt technique qui nécessite d'avoir certaines compétences?
Bien sûr. Mais je serais tentée de dire qu'il faut d'abord avoir des idées. Je veux représenter la nation, et qu'est-ce qu'on représente dans un parlement? Ce sont des courants d'opinion, c'est-à-dire des conceptions différentes du bien commun. C'est ça. C'est-à-dire, je me bats pour des idées, pour une politique extérieure de la France qui serait plutôt pro-européenne, au contraire, plus souverainiste, ou je me bats pour des ouvertures des frontières illimitées, ou au contraire, un contrôle aux frontières, ou je pense qu'il vaut mieux une éducation fondée sur ce... il s'agit de légiférer, c'est-à-dire d'imprimer des règles qui vont être applicables à l'ensemble de la nation.
Alors, de ce point de vue-là, Pierre-Alain Raffan, est-ce que vous avez l'impression, comme le disait tout à l'heure Anne-Marie Le Pourriette, d'avoir déjà fait de la politique, pas via un mandat politique, mais dans vos activités privées, associatives, est-ce que vous avez l'impression d'avoir déjà fait de la politique?
On en fait forcément.
Sachant que vous êtes évidemment militant depuis un an pour En Marche.
Hein. Oui, bien sûr, mais ça c'est un nouvel engagement politique, enfin, au sens de la conscience collective en tout cas. Mais il est vrai que dans le sport, quand on est bénévole associatif, qu'on fait partie d'un bureau ou d'une association, à un tout petit niveau, on fait de la politique, puisqu'on oriente des développements. On va toucher, surtout par le sport, hein. Le vecteur sportif touche énormément de choses, mais même que ce soit au niveau local, régional ou même national, voire international, hein, avec le travail des fédérations. Donc on en joue. On a joué sur le handicap. Quand je dis jouer, c'est-à-dire on a agi sur le handicap, sur le sport santé. On a agi sur le sport et les personnes qui sont en sédentarité, hein. Donc forcément ça a un impact après sur la société.
Et alors est-ce que du coup ce sont des champs politiques dans lesquels vous aimeriez travailler au sein de l'Assemblée nationale, puisqu'il y a différentes commissions par exemple?
La commission qui m'intéresserait le plus et qui correspond aussi à cette circonscription, hein, avec le diagnostic qu'on a fait, c'est la commission des affaires culturelles et de l'éducation, qui touche tous ces éléments-là et qui demandent à avoir une expérience au moins associative et culturelle que j'ai, en tout cas que je saurais représenter.
Alors Anne-Marie Le Pourriette, justement, peut-être est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ces commissions? On dit que finalement c'est là que se fait tout le travail parlementaire. Est-ce que c'est vrai? Comment ça marche?
Oui, c'est exact. Les projets de loi qui débarquent du gouvernement. Alors, il faut savoir que l'essentiel des textes qui sont votés par le Parlement français proviennent de projets de loi gouvernementaux plus que de proposition de loi parlementaire. Alors, depuis la révision constitutionnelle de 2008, il y a un petit peu plus d'initiatives parlementaires, mais globalement, c'est quand même essentiellement l'exécutif qui imprime. Et là, on sait quand même que dans la conception macroniste verticale des choses, là, ça va être projet de loi. Hein. Donc, des projets de loi sont d'abord transmis en commission avant de passer en audience publique. Donc, le travail, je vais dire technique, se fait en commission, mais il ne faut pas croire que tout est fait là. Hein.
En
audience publique. Alors, c'est un travail qui consiste à amender les textes, à les modifier, à les compléter. Et là, le travail se fait article par article, alinéa par alinéa. Et bien sûr, ces textes sont extrêmement divers parce que dans une commission, quelle qu'elle soit, vont débarquer des textes extrêmement différents. Donc là, il faut, alors, première qualité qu'il faudrait à un bon député, c'est d'avoir une plume. C'est quand même de savoir rédiger, donner du sens aux mots qui sont des normes, parce que les lois vont normer le comportement des gens, des citoyens.
Et est-ce qu'il faut avoir des compétences juridiques pour manier quand même un jargon ?
Un député qui sait écrire et qui connaît bien le sens de mots et qui a de la plume va évidemment mieux rédiger un amendement qu'un autre. Mais je vais pas vous dire que actuellement c'est le cas. Le problème,
oui, parce que c'était effectivement une de mes questions, c'est qu'on pose beaucoup la question de la capacité de ces novices dont vous faites partie, Pierre-Alain Raffan, à être député. On pourrait poser la question à l'envers, les députés sortants ont-ils été des bons députés alors qu'ils étaient
tous.
Voilà.
Pas tous, beaucoup. Je peux vous dire que le juriste que je suis, moi je passe mon temps à lire les travaux préparatoires des lois, parce que pour comprendre telle ou telle disposition d'une loi, je vais voir qui l'a voté, qui l'a voulu, comment, de quel amendement elle résulte éventuellement, etc. Donc je vais regarder tout ça. La conclusion, c'est que c'est pas brillant. Bon, c'est pas brillant depuis longtemps, mais les projets de loi, les fonctionnaires qui préparent les projets de loi donnent dans le jargon et la logorée normative également, et il y a une baisse de la qualité des lois, mais le Conseil d'État passe sa vie à le dénoncer, rapport sur rapport sur rapport, donc ça. Et puis en plus, depuis qu'on a un petit peu ravivé l'initiative parlementaire, il y a aussi, il faut dire la vérité, des parlementaires qui rajoutent des amendements ou qui font des propositions de loi qui leur sont très souvent dictées par des lobbies. Ça, c'est alors la loi Sapin 2 va essayer de lutter contre ça en obligeant les lobbies à se déclarer, mais il faut savoir que l'un des mots du Parlement français, de tous les parlements d'ailleurs occidentaux, c'est
très
le fait
présent également au Parlement européen.
Vous avez beaucoup, des députés beaucoup. Et des sénateurs qui déposent des propositions de loi ou des amendements qui ont été rédigés par des groupes de pression, par des groupes d'intérêt, voire même parfois, je l'ai vu en matière fiscale, par des personnes physiques. Des trucs incroyables, qui sont déposés par un député ou un sénateur, ou plusieurs, un petit groupe,
et qui peuvent...
ne l'ont parfois pas lu. Ils ne savent même pas ce qu'ils ont fait. Et la question qui se pose d'ailleurs est de savoir quelle a été la gratification correspondante.
Alors, on va peut-être vous poser la question là-dessus. Une première réaction sur ce que vient de nous dire Anne-Marie Le Pourrier. Pierre-Alain, est-ce que vous êtes préparé à travailler, lutter contre les lobbies? Et au niveau de cette plume aussi, est-ce que techniquement vous vous sentez prêt? Est-ce que là aussi vous allez être formé? Vous avez demandé, vous avez déjà fait du droit? Expliquez-nous.
Alors, je n'ai jamais fait de droit. En tant que tel, je n'ai pas fait d'études de droit. Je m'y suis intéressé parce que quand vous êtes entrepreneur, forcément... À un moment, il est responsable de s'y intéresser. C'est pas le droit dans sa complétude, hein. Mais l'idée, ce que je disais tout à l'heure, c'est de s'entourer des meilleurs. Nous, on va récolter énormément d'informations, on va travailler, hein, parce qu'il faut ramener aussi un peu de bon sens et de libérer des énergies. On va travailler beaucoup là-dessus. Et on
sent beaucoup vous accusent finalement, c'est ce que disait tout à l'heure Anne-Marie Le Pourriette, de subir un petit peu cette verticalité. Est-ce que vraiment vous allez avoir une marge de manœuvre, vous la créer et jouer votre rôle de parlementaire?
Quand vous regardez la manière dont a été composé et créé le mouvement La République En Marche depuis le départ, il n'y a pas eu de verticalité. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron a contré un phénomène. C'est un phénomène qui a été vulgarisé, entre guillemets, par un très grand chercheur français qui s'appelle Henri Saval, à l'Iséor de Lyon. Et c'est une sorte de virus qu'il a appelé le TFW. Le T, c'était l'or. Taylor qui a dit en 1911 que pour qu'une organisation fonctionne, il fallait qu'on soit hyper spécialisé. Hein, vous ferez soit scientifique, soit littéraire, soit à gauche, soit à droite, soit vous aimez le rap, soit vous aimez le classique. Hein. Et ça, on le retrouve un peu partout. Le F, c'est Fayol. Fayol, il disait que pour qu'une organisation fonctionne, il fallait qu'il y ait une séparation entre ceux qui pensent, hein, et ceux qui exécutent. Donc il y a une déconnexion permanente. Et le W, c'est Weber. Qui a demandé dans son concept à dépersonnaliser toutes les tâches. Donc quand vous prenez cette espèce de virus qui est dans la tête, hein, et qu'on retrouve à peu près dans toutes les organisations, Emmanuel Macron a fait l'inverse dans son mouvement.
Et en même temps, vous nous dites qu'il faut que je sois bien entouré. Donc vous allez vous entourer de spécialistes?
On va s'entourer de compétences et de talents. Et le mouvement a été créé comme ça. C'est-à-dire qu'on a fait confiance à tous ceux qui voulaient aller dans le même sens sur un même projet sans avoir de directive verticale. Justement. Ça a été vraiment un travail horizontal et c'est remonté en spirale pour en faire un programme qui a plu.
Mais là, on va quand même avoir l'Élysée qui, via le Conseil des ministres, va faire des projets de loi qui vont passer en plus par ordonnance. Donc, il y a quand même une verticalité assumée en plus.
Ce que nous a demandé aussi le président de la République avant qu'il soit justement qu'il démissionne du mouvement La République en Marche, il nous a absolument demandé, insisté pour qu'on reste libre, qu'on travaille dans le sens des réformes, parce qu'il y a un engagement vis-à-vis des Français, il faut le tenir, sinon ce sera la montée des extrêmes dans 5 ans, mais on restera libre. On l'a toujours été et on le restera.
Anne-Marie Le Pouriette, le Parlement, les parlementaires, c'est un contre-pouvoir nécessaire dans la 5e République ?
Oh, mais c'est plus qu'un contre-pouvoir, c'est un pouvoir. C'est le premier des pouvoirs. Normalement, notre 5e République, si vous voulez, est un petit peu dévoyée par rapport à ce qu'elle était d'ailleurs initialement. Le principal pouvoir dans une démocratie occidentale, c'est le Parlement. C'est quand même en principe là que se situe.
Parce que hier soir, sur certains plateaux de télévision et dans les studios de radio,
mais
on entendait
n'est pas là.
Que la 5e République est en train de tuer le travail parlementaire.
Le système majoritaire de la 5e République, quoi que vous disiez, mais ça vous n'y échapperez pas, c'est même pas possible, est un système de discipline de groupe qui joue dans toutes les démocraties occidentales, un système de discipline de groupe, et ce sera votre patron, Monsieur Ferrand, si j'ai bien compris d'ailleurs, qui va dire, voilà, vous devez voter tous comme ci et comme ça, et il y aura pas à tiquer. Hein. Donc c'est comme ça depuis toujours, à part lorsque quelques députés frondeurs, comme on l'a vu au Parti Socialiste, commencent à tirer dans les coins, mais précisément le but est d'éviter ça. Et donc tout le monde sera à la discipline de groupe, comme ça a toujours fonctionné. Il faut pas... Ici, vous avez quand même, si vous voulez, un certain nombre de... La façon dont les députés ont été recrutés, tous ces nouveaux députés, pas tous, certains viennent d'ailleurs, ils ont déjà eu des expériences, ils viennent du PS, ils viennent de LR, ils ont eu déjà des expériences locales, etc. Mais un certain nombre de gens dits issus de la société civile, hein, qui n'ont donc jamais fait de politique auparavant, au sens qu'ils n'ont même pas eu d'analyse ni de culture politique, ces personnes ont été recrutées directement sur, comme on monte une start-up et on envoie une annonce en disant « envoyez-nous vos CV ». Et donc évidemment,
ça c'était ce que certains ce mode de personnalité de droite disaient les députés internet mois, pendant la campagne.
Ça les met dans la dépendance totale du recruteur. Hein. Ben ça c'est
alors,
clair.
On lui doit tout. Sur cette discipline de groupe, qu'est-ce que vous répondez ?
Qu'il est important d'être discipliné quand on veut monter un projet, hein, comme dans une entreprise. Ça c'est toujours l'entrepreneur hein, qui parle. Mais comme j'aurais peut-être tout à l'heure, même s'il y a une demande, et il y a un engagement hein, d'Emmanuel Macron sur la réussite de ce quinquennat, il y aura toujours, avant de voter quoi que ce soit, une discussion en totale liberté. Et après, c'est de la démocratie interne. Et quand vous voyez la pluridisciplinarité des profils qui ont été élus, ben ça permet aussi d'avoir une cohérence sur la représentativité nationale et avoir des discussions aussi de fond avec des personnes qui ont cette expérience du monde politique tel qu'on l'entend et des personnes qui ont l'expérience de vie, l'expérience d'un secteur, d'un métier ou du quotidien. Et c'est justement...
Alors, même si sur la question de la représentativité, on en a parlé à l'instant dans Décryptage, il y a évidemment cette notion de l'abstention qui remet un petit peu l'analyse à zéro. Ça peut être un petit peu annulé. Il y a eu très très peu de gens qui ont voté. Juste une dernière question pour vous, Anne-Marie Le Pouriette. Il nous reste une minute, donc c'est très court. Mais est-ce que, au contraire, d'avoir de nouveaux profils comme ça, ça peut pas un peu rafraîchir, rajeunir le travail parlementaire ?
Ça. Je vais être sévère, mais ça veut rien dire, quoi. Ça, c'est rafraîchir, rajeunir, ou féminiser, ou autre.
On a vu quand il y avait vraiment des partis très établis, beaucoup d'obstructions. Par exemple, la loi sur le mariage entre personnes de même sexe.
Ah oui, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est parce qu'il y a une opposition forte qui s'est manifestée. Bon, ben justement, c'est la question. Si vous voulez, s'il y a une discipline majoritaire avec une majorité écrasante et une discipline de groupe forte, l'opposition pourra toujours râler. De toute façon, la loi sera adoptée.
Merci beaucoup. On restera là-dessus. Merci à nos deux invités, Anne-Marie Le Pouriette, professeure de droit constitutionnel à la faculté à l'université de Rennes, Pierre-Alain Raffan, nouveau député La République en Marche de la 10e circonscription de l'Essonne, mais néanmoins élu national. On l'aura bien compris. Merci également à Florence Ponce. À Quentin Bresson. Tout de suite, c'est un nouveau journal. Autour.